Prions. Seigneur, comme nous l'avons chanté tout à l'heure, comme le dit ta parole dans ce merveilleux psaume, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Et ce matin, nous voulons nous laisser éclairer par ton esprit. Et voilà, que tu disposes de nos cœurs pour non seulement entendre, écouter, mais surtout, Seigneur, que cette parole puisse agir dans notre cœur, dans nos vies, que cette parole puisse travailler, Seigneur, en nous, pour que nous puissions, Seigneur, l'appliquer, pour que nous puissions, Seigneur, obéir à ta parole. Merci parce que tu veux encore aujourd'hui nous parler. Je te prie vraiment que voilà, ce message, qui est certainement un message incomplet, certainement faillible, certainement imparfait, mais Seigneur, par ton esprit, tu veux faire en sorte que nous puissions quand même être enseignés, exhortés, encouragés ce matin. Voilà, que tu fasses silence en chacun d'entre nous pour que nous puissions être attentifs à ce que tu veux nous dire ce matin. En ton nom, Jésus. Amen. Bonjour. C'est toujours une joie de pouvoir nous retrouver, dimanche après dimanche. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre série de prédications sur les conversions dans le livre des Actes. Maintenant, vous commencez à avoir l'habitude de ce thème. Nous avons, si vous vous en souvenez, nous avons parlé successivement du ministre éthiopien dans Actes chapitre 8. Et ensuite, Jérémie nous a parlé de la conversion de Paul, qui s'appelle aussi Saul. Dimanche dernier, c'était... Est-ce que vous vous souvenez de dimanche dernier, pour ceux qui étaient... De quelle conversion s'agissait-il ? De Corneille. Corneille, centenier, un officier romain. Et aujourd'hui, je vous propose de considérer un personnage un peu particulier du livre des Actes et de considérer sa conversion. Je dis conversion, mais on va voir si véritablement c'est une conversion. Mais d'abord, est-ce que vous savez ce que veut dire le mot simonie ? Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Pardon ? La simonie. L'amour de l'argent, nous dit Clément. En fait, la simonie, c'est le trafic des choses saintes. On trouve ça dans le dictionnaire. L'utilisation des choses spirituelles ou religieuses pour s'enrichir. Quelqu'un qui pratique la simonie, c'est par exemple celui qui demande de l'argent avant de prier. Supposez que quelqu'un me demande, « Pasteur, est-ce que vous voulez prier pour moi ?» J'ai dit, « Bon, donne-moi d'abord de l'argent. » Ça, c'est de la simonie. Et ça vous fait sourire, mais ça existe. Quelqu'un aussi qui détourne les finances de l'Église, c'est des choses qui arrivent, malheureuses, mais qui arrivent, à des fins personnelles, ça aussi, c'est de la simonie. Est-ce que vous connaissez l'origine de ce terme simonie ? Ne parle pas, Clément. Quelqu'un a une idée ? Ouais. Ce terme vient du nom Simon, effectivement, qui est un personnage biblique. Alors, il y a plusieurs Simons dans la Bible. Il y a Simon Pierre, il y a Simon le lépreux, il y a Simon le pharisien, enfin, il y a un certain nombre de Simons. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un Simon un peu particulier. Alors, ça ne marche pas. Pourquoi ?
Si, ça y est, ça marche.
Alors, ça marche ?
Ça fonctionne, hop. Ça fonctionne.
Voilà, c'est bon. Ce qui nous intéresse, c'est un autre Simon qui se trouve dans Actes chapitre 8, versets 4 à 25. Alors, c'est un texte qui est un peu long, mais je pense qu'il est important de pouvoir le lire dans son entièreté pour comprendre. Actes chapitre 8, versets 4 à 25. Les croyants qui s'étaient dispersés parcouraient le pays en proclamant le message de la bonne nouvelle. Philippe se rendit dans la capitale de la Samarie et prêcha le Christ à la population. Elle se montra tout entière, très attentive à ses paroles, en l'entendant et en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, beaucoup de personnes qui avaient des démons en elles en furent délivrés. Ils sortaient d'elle en poussant de grands cris, et de nombreux paralysés et des infirmes furent guéris. Aussi, toute la ville était-elle dans une grande joie. Or, depuis quelque temps, un homme nommé Simon s'était établi dans la ville. Il exerçait la magie. Il émerveillait le peuple de Samarie et prétendait être un grand personnage. Toute la population, du plus petit jusqu'au plus grand, lui accordait donc une grande attention. Cet homme, disait-il, est la puissance même de Dieu, celle qu'on appelle la grande puissance. S'ils s'attachaient ainsi à lui, c'était parce que depuis assez longtemps, il les étonnait par ses actes de magie. Mais quand ils crurent Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu et de Jésus-Christ, ils se firent baptiser, tant les hommes que les femmes. Simon lui-même crut et fut baptisé. Dès lors, il ne quittait plus Philippe, émerveillé par les signes miraculeux et les prodiges extraordinaires qui s'accomplissaient sous ses yeux. Quand les apôtres restés à Jérusalem apprirent que les Samaritains avaient accepté la parole de Dieu, ils déléguèrent auprès d'eux Pierre et Jean. Dès leur arrivée, ceux-ci prièrent pour les nouveaux disciples afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. En effet, ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Pierre et Jean leur imposèrent donc les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Simon vit que l'Esprit Saint était donné aux croyants quand les apôtres leur imposaient les mains. Alors, il leur proposa de l'argent et leur dit « Donnez-moi aussi ce pouvoir pour que ceux à qui j'imposerai les mains reçoivent l'Esprit Saint. » Mais Pierre lui répondit « Que ton argent périsse et toi avec lui, puisque tu t'es imaginé qu'on pouvait se procurer le don de Dieu avec de l'argent. Tu n'as ni part ni droit dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Détourne-toi donc du mal qui est en toi et demande au Seigneur de te pardonner, s'il est possible, d'avoir eu de telles intentions dans ton cœur. Car à ce que je vois, tu es rempli d'amertume et de méchanceté et tu es captif du mal. » Alors Simon demanda à Pierre et à Jean, « Priez-vous vous-même le Seigneur pour moi, qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. » Pierre et Jean continuèrent à rendre témoignage à Jésus en annonçant la parole du Seigneur, puis ils se retournèrent à Jérusalem tout en annonçant la bonne nouvelle dans un grand nombre de villages samaritains. Voilà, jusque-là notre lecture de ce matin. Alors cette scène, chers amis, se déroule dans une région qu'on appelle la Samarie. Petite diapositive, la Samarie se trouve entre la Galilée au nord et la Judée au sud. Donc là, on est dans le pays appelé à l'époque la Palestine. La Samarie, elle est peuplée à l'époque d'habitants constitués d'un mélange de juifs et de non-juifs, suite à une forte migration de populations qui venaient des pays païens, des pays environnants qui n'étaient pas chrétiens. Bon, pour la petite histoire, c'est suite à la déportation de la partie nord de l'Israël par un empire qui s'appelait l'empire assyrien. Donc il y a une déportation d'une partie de la population du nord qui s'appelait à l'époque le royaume de Samarie, justement, ou le royaume d'Israël. Et le roi des Assyriens de l'époque, après avoir déporté la population, a exporté dans ce pays-là beaucoup de gens païens. Et ça a donné un mélange de juifs et de non-juifs qu'on appelait les Samaritains. Et les Samaritains ne s'entendaient pas du tout avec les Juifs. Mais dans le plan de Dieu, l'évangile devait être prêché à toutes les nations, qu'elles soient d'origine juive, moitié juive ou pas juive du tout. Le Seigneur Jésus d'ailleurs confirme dans le livre des Actes, au chapitre 1, verset 8, il dit « Vous serez mes témoins », il parle aux disciples, là, il dit « Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Donc le plan de Dieu c'était que toutes les nations, y compris les nations non juives, puissent recevoir aussi l'évangile. Et c'est précisément pour obéir à cet ordre que Philippe, l'évangéliste, Il part en Samarie pour évangéliser cette population, les Samaritains donc. Et dans ce récit, il est question de la conversion d'un homme, Simon. Je dis conversion parce qu'apparemment, il est touché par la prédication de Philippe. Il croit et il se fait baptiser. Mais c'est une conversion qui laisse un peu perplexe. Les propos de Pierre, notamment, on a lu tout à l'heure dans le texte, sous-entendent que cette foi de Simon, le magicien, qui était aussi samaritain, ne semble pas être une foi authentique. Alors la question c'est, qu'est-ce qui s'est passé pour que Pierre puisse avoir ce discernement pour dire, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Alors pour essayer de comprendre, eh bien, on va voir ensemble le texte, hein. Et je propose de dégager trois caractéristiques importantes d'une foi authentique. Alors, il y en a peut-être plus, mais en tout cas, pour ce texte pour notre enseignement de ce matin, nous allons voir ces trois points-là. Premièrement, la foi n'est pas seulement fondée sur les miracles. Simon, dont il est question ce matin, il fait partie de charlatans, de sorciers, de magiciens, qui étaient foisons hein, à l'époque, il y en avait beaucoup. Il accomplit des actes étonnants. Parfois, c'est juste des tours de passe-passe. Hein. On appelle cela aussi de la prestidigitation. Ça existait déjà avant. Parfois, c'était aussi l'utilisation de certains produits chimiques qui donnaient des effets un peu étonnants. Mais il y avait aussi des actes surnaturels, des prédictions d'avenir, etc. Donc, bref, des choses troublantes pour un esprit, on va dire, rationnel. La Bible ne précise pas exactement quels sont les miracles de Simon, mais en tout cas, les gens sont influencés, hein, puisqu'ils s'attachaient à lui, ils se sont attachés à Simon, parce qu'il les étonnait par ses actes de magie, au verset 11. Donc les Samaritains sont fascinés, subjugués, au point de se demander si Simon n'est pas une sorte de manifestation de Dieu, à cause des miracles qu'il fait, on a vu tout à l'heure dans le verset 10. Et les Samaritains sont prêt à faire confiance à cet homme, à le suivre, à lui obéir. Et voici que Philippe arrive, donc Philippe l'évangéliste, dans cette région hein, de Samarie. Et non seulement il annonce la bonne nouvelle en Jésus-Christ, mais il accomplit aussi des actes miraculeux. Hein, la Bible nous le dit. Mais ces actes miraculeux, visiblement, ont été plus convaincants que ceux de Simon. C'est une manière de montrer que voilà, Dieu est plus puissant, les actes de Dieu sont plus puissants que ceux qui ne viennent pas de Dieu. Ça me fait penser à ces magiciens du Pharaon, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Moïse avait été envoyé pour libérer le peuple juif et pour démontrer la puissance de Dieu, ben Moïse avait changé le bâton en serpent. Vous vous souvenez de ça, hein ? Et les magiciens du Pharaon ont voulu faire la même chose. Effectivement, ils sont arrivés. Mais qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? Le serpent de Moïse a mangé les autres. Bon, ça, c'est une petite parenthèse, je la referme. Mais en tout cas, les actes de Simon étaient plus convaincants, à tel point que Simon lui-même fait partie de ceux qui croient, et il va se faire baptiser. Alors, même si de nos jours, les miracles ne sont pas tellement courants, ils peuvent encore faire partie d'actes de Dieu, des actes qu'il utilise pour se révéler. C'est encore une réalité. Il existe des endroits, des assemblées chrétiennes, où Dieu, dans son plan parfait, dans sa souveraineté parfaite, choisit d'accomplir des actes miraculeux, des guérisons extraordinaires. Ce sont des choses qui existent et qui ne doivent pas nous étonner. C'est une réalité qui ne doit pas nous étonner parce que Dieu reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais ce n'est pas quelque chose qui est systématique. Vous le conviendrez, sinon ici on verrait tous les jours ou tous les dimanches des guérisons miraculeuses. Lors d'une conférence sur concernant l'organisation Portes Ouvertes, il y a de cela 2 ou 3 ans, nous avons entendu le témoignage d'un pasteur qui affirmait que dans son pays d'origine, qui était l'Iran, je crois, il vivait vraiment des miracles comparables à ceux qu'on voit dans le livre des Actes. Dieu choisit, à un moment donné, voilà, de se révéler par des miracles dans sa souveraineté. Il ne faut pas lui demander pourquoi tu as fait ça là-bas et pourquoi pas ici, par exemple. Hein. Rassurons-nous cependant, si nous ne voyons pas forcément des phénomènes extraordinaires dans nos assemblées, ça ne veut veut pas dire que notre église est une église moribonde. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas présent. Vous savez, la conversion, c'est déjà un miracle en soi. Moi, je peux vous dire que je suis un miracle devant Dieu. Avec ce que j'étais avant, sans rentrer dans les détails, et ce que je suis devenu après, c'est un véritable miracle. En tout cas, Dieu agit comme il veut. Quand Jésus est venu pour annoncer le royaume de Dieu, son message était aussi appuyé par de nombreux miracles. Voilà. Si vous regardez les évangiles, afin de montrer qu'il était réellement le Messie, l'envoyé de Dieu, l'incarnation de Dieu sur la terre. Et d'ailleurs, il disait en parlant de ces miracles, il dit « Les actes que j'accomplis au nom de mon Père témoignent en ma faveur. » En Jean chapitre 10, verset 26. C'est-à-dire qu'il annonçait le message, la repentance, le royaume de Dieu qui était là. Et en même temps, il appuyait ce message par des miracles. Il disait que ces miracles sont des actes qui témoignent en sa faveur. Et en voyant ces actes miraculeux, beaucoup reconnaissaient en Jésus le Fils de Dieu. Et parmi ceux qui étaient touchés, il y avait ceux qui étaient véritablement sincères. Les cœurs étaient disposés à reconnaître leurs péchés, à recevoir Jésus comme leur Seigneur, leur Sauveur. Il est donc légitime de croire en Jésus quand on voit la puissance du Saint-Esprit qui se manifeste. Et aujourd'hui encore, il y a des personnes qui deviennent des fervents chrétiens suite à des actes miraculeux dont ils ont été témoins dans leur vie ou dans la vie de leurs proches. Et peut-être que parmi nous, c'est le cas. Mais la question c'est, est-ce que la foi fondée sur les seuls miracles est-elle forcément une foi authentique? Dans Jean chapitre 2, versets 23-24, voici ce que dit Jésus. Enfin, voici ce que dit la parole. Beaucoup de gens crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il accomplissait. Ah, c'est bien. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, car il les connaissait tous très bien. À un moment donné, même Jésus avait dit, vous me suivez, parce que vous avez vu que j'avais multiplié les pains, et voilà, vous avez été rassasiés, mais encore. Alors, quand Philippe, lui, il arrive en Samarie, qu'est-ce qu'il commence par faire, si on relit le texte? Au verset 5, Philippe se rendit dans la capitale de Samarie, et il fit beaucoup de miracles. Est-ce que c'est ça qui est écrit, ceux qui voulaient lire la Bible? Vous n'avez pas la Bible. Qu'est-ce que c'est que ça? Il prêcha Christ. Il commence par annoncer d'abord verbalement le message de l'Évangile. Et ce message est accompagné effectivement ensuite par des miracles pour authentifier le message du salut. Et au début de l'ère de l'Église, au début de l'ère chrétienne, Dieu permettait qu'il y ait des miracles. Et c'est Jésus même qui avait dit à ses disciples, vous accomplirez des miracles pour authentifier vraiment mon message. Mais dans notre texte, on voit que la foi de Simon, elle semble être motivée plus par les miracles que par le message de l'Évangile. Parce qu'au final, Pierre lui dit, voilà, tu n'as aucune part ni droit dans cette affaire. Une conversion, certes, mais une conversion artificielle. Une foi superficielle, fondée uniquement sur les miracles. Chers amis, la foi authentique, c'est celle qui se fonde d'abord sur le message de l'Évangile. La Bible est claire, là-dessus elle dit, la foi naît du message qu'on entend, que l'on entend. Et ce message, c'est celui qui s'appuie sur la parole de Christ. Romains chapitre 10, verset 17. Dans d'autres versions, c'est la foi vient de ce qu'on entend. Et non pas la foi vient des miracles qu'on voit. Méfions-nous des miracles gratuits comme ça, sans message préalable. Là, le danger, c'était, pour ces Samaritains-là, c'était de suivre Simon. Parce que Simon faisait des miracles. Alors, je ne sais pas quel genre de miracle il faisait. Peut-être qu'il faisait pleuvoir des paillettes d'or, j'en sais rien, qu'il fait parler des animaux. Enfin, je ne sais pas. Hein. Mais dès qu'ils voient ça, voilà, ils sont subjugués, ils veulent le suivre. Enfin, c'est quelqu'un qui sort de l'ordinaire, qui a l'air d'avoir des pouvoirs. On peut lui faire confiance, mais là, on fait confiance à l'homme et non pas au message de l'Évangile. Soyons vigilants, chers amis. Deuxième point, la foi libère des chaînes du péché. La foi est une foi qui libère. Le message de l'Évangile est un message de libération. La libération des péchés, la libération de l'influence du diable. Et Simon lui-même était dans les chaînes du diable. Hein. En effet, il pratiquait la magie. Et la magie, la sorcellerie sont des choses horribles devant Dieu. qu'on ne trouve chez toi personne qui pratique la divination, qui s'adonne à la magie, car c'est une abomination. Là, j'ai un peu synthétisé ce passage dans Deutéronome chapitre 18, versets 10 à 12. Et Jésus est venu justement pour proclamer aux captifs la libération, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la délivrance aux opprimés. Et nous voyons que les actes de Philippe, d'ailleurs, se présentent tous sous la forme de délivrance. Guérison des malades, des paralytiques, des infirmes, expulsion de démons qui tourmentaient les gens. Il ne faisait pas pleuvoir des paillettes d'or, par exemple. Si nous sommes chrétiens, chers amis, nous avons été arrachés au pouvoir des ténèbres, c'est-à-dire au pouvoir du diable, pour passer dans le royaume du Seigneur. C'est la parole qu'il nous dit dans Colossiens chapitre 1, verset 13. Nous ne sommes plus esclaves du péché, Romains chapitre 6, verset 6. Nous ne sommes plus obligés d'être sous le joug d'un esclavage ou d'une addiction quelconque. Le message de l'Évangile, c'est un message de libération qui procure la joie, une joie profonde, la joie d'être pardonné de ses péchés, la joie d'être délivré de l'emprise du diable, la joie de la vie éternelle, la joie d'appartenir désormais, non pas à un homme, mais d'appartenir à Dieu. Ce n'est pas une joie éphémère que procure ce monde avec de la poudre aux yeux. Ce n'est pas une joie qui permet d'oublier temporairement nos soucis quotidiens, par des plaisirs artificiels ou que sais-je, ou par des divertissements. Simon, lui, il divertissait. Et les gens étaient ébahis et ils suivaient. Le texte nous dit que les actes de Philippe procurent une joie immense, une grande joie, une joie profonde, verset 8. Tandis que les actes de Simon émerveillent la foule, mais sans plus. Les gens restent prisonniers de leur péché. Et Simon lui-même est resté prisonnier de son péché. Que dit l'apôtre Pierre au verset 23 ? Tu es encore captif du mal. Il n'est pas délivré de ses liens avec le diable. Il ne reconnaît même pas qu'il est encore prisonnier de ses péchés. Or, le message de l'Évangile est un message qui libère. Simon n'était pas libéré. Deuxième preuve d'une foi authentique. Troisième point, la foi est une foi qui transforme. La Bible affirme qu'une fois que quelqu'un accepte le message de l'Évangile, une fois qu'il reconnaît ses péchés, qu'il demande pardon, qu'il met entièrement sa confiance en Christ, la parole dit que le Seigneur vient faire sa demeure en lui par son esprit. Un dimanche dernier, Michael nous a rappelé ce passage important qui dit « Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. » Tout chrétien a l'esprit de Dieu. Le don du Saint-Esprit est lié à la foi en Christ. Si je suis chrétien, le Saint-Esprit vit en moi. C'est la Bible qui le dit. Au 1 Corinthiens 3,16, vous êtes le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit demeure en vous. À notre conversion, Dieu nous accorde donc son esprit. Et le rôle de l'esprit, c'est de commencer une œuvre de transformation dans notre cœur. Une transformation en profondeur. La parole dit dans 2 Corinthiens 3,18, nous sommes transformés de gloire en gloire en l'image de Dieu par son esprit. C'est là l'œuvre de l'esprit, dit la parole. Donc la conversion implique un changement. Celui qui se convertit ne sera plus le même homme, la même femme. 2 Corinthiens 5,17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Les anciennes habitudes, les anciennes fréquentations, les anciennes manières de vivre, tout ça, c'est fini. Et Simon, alors, me direz-vous ? Certes, il est impressionné par la manifestation de l'Esprit-Saint, il l'a vu, au verset 18. Mais cet Esprit-Saint, il ne le reçoit pas pour lui-même. Il en voit les effets, mais il ne veut pas que cet Esprit ait des effets sur lui. Son cœur n'est pas disposé à recevoir. C'est un peu comme, je ne sais pas si vous connaissez la parabole des quatre terrains, de la bonne terre, de la bonne semence. Il y a différentes sortes de terrains qui représentent le cœur. Le cœur de Simon était ce genre de terrain qui accepte facilement, qui est ému par « oulala, c'est beau » et tout ça, mais sans plus. Sans plus. Au contraire, il voit dans le Saint-Esprit un moyen d'améliorer, de booster son business. Ah, c'est bien ça, je vais avoir plus d'argent. Parce qu'en plus, il y aura la manifestation de l'Esprit-Saint. On dit « donnez-moi aussi ce pouvoir » au verset 19. Et c'est une demande, en fait, qui trahit vraiment son état d'esprit, qui trahit l'état profond de son cœur. Et Pierre, qui est un apôtre inspiré, qui est plein du Saint-Esprit, il discerne tout de suite, il y a une entourloupe là. C'est pas normal qu'il réagisse comme ça. Donc Simon ne montre pas par son comportement qu'il est un nouvel homme. Au fond de lui-même, il ne veut pas renoncer à sa vie passée. Il reste un magicien dans sa tête, dans son cœur, dans ses intentions. Sa foi n'est définitivement pas authentique. Elle ne produit pas de changement significatif dans sa vie. Il n'a pas reçu l'Esprit Saint. Il est encore loin de Dieu. Il n'est pas sauvé. À la preuve, Pierre livre un diagnostic pour le moins sévère. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Alors qu'il avait cru qu'il était baptisé. Hein. Demande à Dieu de te pardonner. Tu es rempli d'amertume, de méchanceté. Tu es captif du mal. Ce ne sont pas vraiment des qualificatifs d'une personne qui est sauvée. Vous en conviendrez. Alors, conclusion. Chers amis. Simon, ici, il est présenté. J'avais parlé au début d'une série sur les conversions. Mais ici, finalement, Simon est présenté comme l'exemple d'une fausse conversion. Et c'est pour nous sensibiliser les uns et les autres. Parce qu'au début, c'est vrai qu'aux yeux des hommes, son comportement semble être sincère. Apparemment, il croit. Et il se fait baptiser devant tout le monde. Apparemment seulement, parce qu'au final, il est encore prisonnier du mal. Et ça peut faire réfléchir. Alors il est bon, si je pense être chrétien, il est bon de me poser un certain nombre de questions. Et je vous encourage aussi à vous poser ce certain nombre de questions. Est-ce que, à un moment donné de ma vie, j'ai sincèrement confessé tous mes péchés? Est-ce que j'ai reconnu en Jésus-Christ mon seul Seigneur et mon seul Sauveur? Est-ce que je lui ai fait confiance, personnellement, en lui, pas en un pasteur ou un responsable ou un homme, mais en lui? Est-ce que j'ai vraiment pris la décision de renoncer à ma vie passée? Simon, il n'avait pas renoncé, au contraire. Il voulait encore plus vivre comme avant, avec une valeur ajoutée. Est-ce que j'ai l'assurance de la vie éternelle? Est-ce que l'Esprit de Dieu vivant est vraiment en moi? Est-ce que j'ai pu constater moi-même des changements dans mes comportements, dans mes habitudes, peut-être pas du jour au lendemain, mais au fur et à mesure de notre vie chrétienne? Et est-ce que mon entourage l'a aussi constaté de ma vie? Ou alors est-ce qu'on dit, mais écoute, tu es chrétien, mais franchement, toi il y a 10 ans et toi aujourd'hui, c'est pile la même chose. Toujours aussi méchant, toujours aussi menteur, toujours aussi rancunier, toujours aussi... J'exagère un peu, je grossis un peu les lignes. Mais c'est des questions qui sont à se poser. D'autant que la parole de Dieu nous dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous vivez dans la foi. Et là, l'apôtre Paul, a priori, il écrit à des chrétiens. Dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Mais en tout cas, n'hésitons pas à rentrer en nous-mêmes, à faire notre propre critique, notre propre introspection, en demandant au Seigneur de nous sonder par son esprit, dans notre cœur. Un jour, il y a un prédicateur qui a utilisé l'image d'une abeille. Une abeille face à deux bouquets de fleurs apparemment identiques, mais dont l'un est composé de fleurs artificielles, avec une odeur artificielle, un parfum artificiel. Voici que l'abeille rentre. Où est-ce qu'elle va aller, l'abeille, si elle veut butiner? Aux fleurs naturelles. Peut-être qu'elle serait dit, oh, mais ça sent bon, ça, mais... Ah non, mais le vrai, c'est les fleurs naturelles. Et de même, chers amis, Dieu ne se trompera pas quant à ceux qui lui appartiennent. Comme l'abeille. On peut tromper les hommes. On peut tromper les responsables d'une église. Simon a trompé son monde. Il a cru, il était baptisé. Bon, quoi de plus? Voilà, c'est un chrétien. On peut tromper les hommes, on peut tromper le responsable de l'Église, on peut tromper le pasteur, voilà, mais on ne trompera pas Dieu. Parce qu'il regarde au cœur et connaît les siens, de Timothée 2,19. La question qui doit se poser, c'est quand je serai devant Dieu, est-ce que Dieu me reconnaîtra vraiment comme son enfant ? Simon le magicien, encore une fois, n'est pas passé par une vraie confession de ses péchés, ni par une repentance. Quand Pierre le met en garde, il lui dit, demande à Dieu de te pardonner si possible. Qu'est-ce qu'il dit Simon ? Il dit, bon, ben, je vais demander pardon, effectivement. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il a dit ? Priez vous-même le Seigneur pour moi, afin que le jugement ne m'arrive pas. Il n'y a pas une volonté propre de confesser les péchés pour être pardonné. Moi, je me souviens à Madagascar, quand on allait à l'église, il y a des gens qu'on voyait, ils disaient, ah, priez pour nous, pauvres pécheurs, allez-y, dans votre église, priez pour nous. C'est pas comme ça que ça marche. Ce ne sont pas les autres qui vont me sauver. Ils peuvent prier pour ma conversion, mais c'est à moi, personnellement, de montrer par mon attitude que je veux recevoir le pardon de mes péchés et que je veux être sauvé. Alors, frères et sœurs, examinons-nous. Laissons-nous sonder par l'Esprit du Dieu vivant. Reconsidérons ces questions. Et s'il y en a une à laquelle nous n'avons pas de réponse, si une de ces questions nous trouble au point de douter de notre salut, eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, c'est le jour pour lever tous ces doutes. Peut-être que ce matin, à cette heure précise, c'est le moment pour dire non, je ne veux pas laisser le doute dans mon esprit. Seigneur, sincèrement, je veux me donner entièrement à toi. Il ne s'agit pas pour moi de semer effectivement le doute dans votre cœur, mais la parole voilà, nous demande de nous examiner. Et peut-être que parmi nous ce matin, il y a quelqu'un qui n'est pas au clair encore face à ce type de questions-là. Si vous me posez à moi personnellement, je ne serai pas prétentieux en répondant positivement à toutes ces questions. Parce que je sais ce qui s'est passé en moi et je sais ce que la Bible dit. Je connais les promesses, je les ai lues. Et la promesse de Dieu est vraie. Quiconque croit en lui ne périra pas. Croit en Jésus, mais il a la vie éternelle. Ce n'est pas sous condition d'aller effectuer des pèlerinages à droite à gauche. Non, c'est d'abord la foi qui sauve. Et après, effectivement, nous sommes amenés à accomplir des œuvres que le Seigneur a préparées d'avance pour ceux qu'il aime. Mais si aujourd'hui, nous sommes encore dans le doute, on peut lever vraiment ce doute et dire au Seigneur avec un cœur sincère, et je vous invite vraiment, si c'est le cas, de le faire. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus, pardonne-moi de tous mes péchés. Merci d'avoir payé à ma place en mourant sur une croix. Pour moi, pour me sauver, je reconnais cela et j'accepte ton pardon. Sauve-moi aujourd'hui. Viens à mon secours et merci pour ton esprit qui va me transformer. Merci pour l'assurance du salut, l'assurance de la vie éternelle. Voilà, je ne sais pas si c'est votre cas ce matin, de ne pas savoir encore où vous en êtes, d'être dans une espèce de brouillard quant à votre salut. Aujourd'hui, il est encore temps, je le répète encore, de lever tous les doutes en nous appuyant sur la parole de Dieu, pas sur des miracles, sur la parole de Dieu. Et si nous avons été sincères dans notre prière, faisons confiance au Seigneur. Le Seigneur viendra faire notre habitation en nous par son Esprit Saint. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, pour l'exemple de cet homme, Simon, qui sur le coup était encore loin de toi. Nous ne savons pas par la suite qu'est-ce qui s'est exactement passé dans sa vie. Est-ce qu'il s'est réellement converti ? Nous ne savons pas. Mais en tout cas, Seigneur, aujourd'hui, si voilà, quelqu'un est dans cette situation, pas forcément comme Simon le magicien, mais loin de Dieu, eh bien, nous savons, Seigneur, que le sort, c'est que nous soyons loin de toi définitivement, la mort éternelle. Seigneur, parle au cœur ce matin de celles et ceux qui n'ont pas encore cette assurance d'être sauvés, de celles et ceux qui hésitent ou qui hésitent depuis trop longtemps, qui sont là, les pieds clochant à droite, à gauche, mais au final, qui sont comme Simon, loin de toi. Seigneur, parle à leur cœur aujourd'hui, attire-les à toi, que ton esprit agisse puissamment, Seigneur, pour qu'aujourd'hui il y ait un miracle, le miracle de la véritable conversion, de la foi authentique, le miracle qui consiste à passer des ténèbres à ton admirable lumière. Seigneur, parle aujourd'hui. Seigneur, que des cœurs se décident aujourd'hui, une fois pour toutes, pour te dire, Seigneur, oui, je viens à toi. Mais aussi, peut-être qu'il y a des personnes qui étaient loin de toi, qui t'appartiennent authentiquement, mais qui se sont éloignées. Que ce soit aussi l'occasion de s'examiner, comme nous demande la parole, et de se dire, Seigneur, je vais renouveler mon engagement envers toi ce matin. J'ai été loin de toi. Je t'ai désobéi tant de fois. Aujourd'hui, Seigneur, je veux te suivre. Je veux vraiment me redonner à toi, comme l'a fait le fils prodigue, qui était loin de son père et qui a reconnu qu'il était mort sans lui. Alors ce matin, je vais faire un appel. Ce matin, si parmi nous, frères et sœurs, chers amis, il y a quelqu'un qui a été touché par le message de l'Évangile, quelqu'un qui s'est peut-être reconnu, pas forcément dans Simon, mais en tout cas qui s'est reconnu comme étant loin de Dieu, eh bien je vais demander tout simplement à ces personnes, si elles ont été touchées, de se lever et on priera pour elles. Si dans votre cœur, vous avez vraiment accepté le Seigneur, si dans votre cœur, vous voulez vraiment le suivre, si jusqu'ici vous étiez loin de lui, que vous n'avez peut-être pas compris le véritable sens du message de l'Évangile, n'hésitez pas, levez-vous. Se lever, c'est un geste simple qu'on fait dans la vie. Aujourd'hui, ce geste va avoir une signification décisive. Donc si vous voulez, si votre cœur est touché par le Saint-Esprit ce matin, levez-vous. Dites, voici Seigneur, je viens. Voici Seigneur, je ne veux plus vivre cette vie de péché, cette vie où j'étais loin de toi, cette vie de débauche peut-être, cette vie d'addiction. Le message de l'Évangile est un message qui libère, qui transforme, l'avons-nous vu. Ce n'est pas des histoires, ce n'est pas des fables, c'est la réalité. Il est encore temps, ce matin, de se dire, voilà, je veux m'accrocher à toi maintenant, Seigneur. Je me lève pour toi. Je t'accepte comme étant mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pour ces personnes qui se sont levées ou qui ont renouvelé leur engagement, je vais prier. Mais après, si vous voulez aussi me voir ou voir les responsables après le culte, si ce message vous a touché, voilà, vous pouvez voir, on priera pour vous, on vous encouragera. Prions. Seigneur, je te prie pour ces personnes qui se sont levées. Tu connais leur cœur, Seigneur, tu as vu la sincérité de leurs gestes. Seigneur, je te prie que ce ne soit pas une conversion à la Simon, où on est simplement touché, peut-être pas les belles paroles d'un pasteur, mais qui sont touchés réellement par le message de l'Évangile, de Jésus-Christ venu sur cette terre pour sauver, pour libérer, pour donner la vie éternelle. Je te prie pour eux, Seigneur. Vois leur cœur et que tu agisses dans leur vie afin qu'ils puissent croître aussi dans la connaissance de ta parole et que l'Église puisse aussi les entourer, les encourager, leur témoigner aussi de leur foi afin qu'ils puissent grandir petit à petit. Oui, Seigneur, merci encore. Parce qu'on voit là encore un miracle de ta part. Tu agis encore, Seigneur, dans les cœurs. Et nous voulons te louer de tout notre cœur pour cela. En ton nom, Jésus. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir.